Chavot 2011, La femme vertueuse 1. Seigneur Jésus, nous voilà maintenant tous réunis pour recevoir ta parole, celle que tu nous donnes, celle qui nous instruit et nous fait grandir, celle qui nous permet de nous rapprocher de toi. Toi, aujourd'hui, c'est une fête de pèlerinage, une fête où tu nous appelles à venir vers toi, Chavot, une fête de joie, la fête des premiers fruits. Les fruits de l'Esprit, parce que c'est aussi ce jour de Pentecôte, que ton Esprit est descendu sur ton Église. Puisses-tu aujourd'hui nous donner une portion entière, complète et débordante de ton Esprit, afin que par toi, nous puissions nous rapprocher de l'Époux, te serrer dans nos bras, et dans un même élan d'amour, nous unir pour former qu'un, en ton nom Yeshua. Amen. Alors bien que c'est Shavuot, d'habitude, quand c'est les grandes fêtes de l'Éternel, eh bien, je choisis un thème qui est directement en phase avec le sujet. Alors, en l'occurrence, c'eût été soit la Pentecôte, soit les prémices de la moisson, les premiers fruits ou quelque chose comme ça. Mais là, ce ne sera pas le cas. C'est le Seigneur qui a choisi le sujet. Et le sujet, c'est la femme vertueuse. Si je choisis ça, c'est parce que c'est important, c'est profond, essentiel, prophétique. Le sujet est énorme, puisque on peut lire entre les lignes que entre le mystère de l'homme et de la femme, il y a une relation entre le peuple de Dieu et le Seigneur, entre l'Église et l'Époux, Jésus-Christ. Et donc, la parole, c'est la base prophétique, la base de la parole cachée, celle qui n'attend que d'être découverte, celle qui n'attend que d'être éclairée par la puissance de l'Esprit-Saint, ben pour nous révéler toutes les profondeurs, toutes les merveilles et toutes les richesses qui nous sont nécessaires pour nous rapprocher toujours plus de notre Seigneur. Si j'ai choisi ce thème, c'est parce que premièrement, c'est le Seigneur qui l'a choisi. Quand nous étions à Jérusalem, ben, il y a eu un certain nombre d'événements qui sont allés crescendo, qui finalement ont abouti à ce que comme un voile se déchire et que je comprenne un certain nombre de choses. Mais c'est ces choses que je veux partager maintenant. Donc j'ai creusé le sujet en demandant au Seigneur de me guider. Et comme base, comme introduction, je vais prendre Proverbes, livre des Proverbes, dont nous avons déjà lu un certain nombre de choses. Nous avons tiré des enseignements, puisqu'on peut tirer de ce livre, pour le résumer, on peut dire, c'est un peu une notice, une mode d'emploi du fonctionnement de l'être humain. Comment le Seigneur veut qu'on marche? Si on ne sait pas, si on trouve que la Bible c'est compliqué, ah ben hop, on jette dans les Proverbes, là, c'est simple. C'est dit, tu ne boiras pas, tu ne fumeras pas, tu ne rouleras pas trop vite, j'ajuste. Hein. Mais c'est des conseils de bon sens. C'est des choses qui nous sont utiles pour la vie, que chacun peut comprendre, qui sont relativement simples, ce sont des passages très courts, les proverbes, hein, parce qu'en général c'est juste un verset, parfois plus, là en l'occurrence ça sera plus, mais n'importe qui peut appréhender les proverbes sans se poser trop de questions. S'il y a un sujet qui nous paraît douteux, s'il y a un comportement qui paraît litigieux, on saute dans les proverbes, on cherche, et puis en général on trouve un sujet approchant qui nous donne les réponses nécessaires pour savoir comment nous conduire dans la vie, vis-à-vis des gens qui nous entourent, mais aussi vis-à-vis du Seigneur, et vis-à-vis de nous-mêmes, hein, quand on a des doutes. Donc, je vais prendre cette notice explicative du comportement de l'homme vis-à-vis du Seigneur et des hommes, et je vais prendre, finalement, le chapitre qui conclut ce livre. Et ça, c'est étonnant la manière dont le Seigneur fait les choses, parce que dans les proverbes, il y a un tas de sujets. On parle de tout. On parle de la femme adultère, de la personne qui va boire, de celui qui est paresseux, des choses comme ça. Mais il se termine de manière assez étonnante. Il se termine en fait par un poème. Il se termine par un poème en 22 versets qui va traiter de la femme vertueuse. Et en hébreu, chaque verset va commencer par une lettre différente de l'alphabet hébreu. Donc nous allons avoir 22 versets qui sont présenté comme un poème et qui finalement égrène la lettre, égrène le verbe. C'est d'une certaine manière un condensé, c'est d'une certaine manière un poème que le Seigneur nous donne, qui a été inspiré pas par Salomon, parce que l'auteur c'est pas Salomon, mais par un homme qui a une vision très particulière de ce que peut être la femme, son rôle, sa relation qu'elle peut avoir avec son époux et avec le Seigneur, et qui somme toute ponctue tous les enseignements qu'on peut avoir. C'est un petit peu comme si vous avez la notice explicative et qu'à la fin on fait un résumé. On dit, ben voilà, je vous donne un tas de conseils, mais si vous voulez être parfait, eh ben je vais vous donner un exemple. Et c'est cet exemple que nous allons lire maintenant. Et après ça, on va construire, on va bâtir là-dessus, parce qu'il y a tellement de choses à dire que ça va être le socle, ça va être la pierre de fondement de ce que je pense être une étude assez longue sur les relations qu'on peut avoir dans le couple, de ce qu'est la femme dans l'Église et ce qu'est l'Église par rapport à Christ. Alors on retrouve ça dans le chapitre 31, Parole du roi Lémuel. Alors ça ne commence pas au verset 1, mais ça commence au verset 10. Alors on peut considérer que ça commence avec la lettre A, B, etc., jusqu'à la lettre finale, qui en hébreu, Tav, conclut toute chose. Nous sommes de l'Aleph au Tav. C'est-à-dire c'est le commencement et la fin. Le Seigneur se présente toujours comme étant l'alpha et l'oméga. Là, nous avons l'épouse qui se présente comme étant l'alpha et l'oméga. D'une certaine manière, c'est l'image parfaite de la perfection de la femme selon la vision de Dieu. Alors, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'aux portes ses œuvres la louent. Voilà, pour comprendre un peu tout ça, il faut se replonger dans le contexte, hein, qui était le contexte de l'époque. Naturellement, on ne peut pas comparer une femme qui a vécu il y a 3000 ans avec ce qu'on est aujourd'hui, parce que les choses ont tellement évolué que on peut difficilement les rapprocher avec certains éléments du texte, hein, comme par exemple filer la laine, tisser des tapis, faire des habits, des choses comme ça. C'est des choses qu'on ne fait plus, mais qui ont quand même un sens. Le texte, il commence. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Alors ça, c'est une très bonne question. Qui peut trouver une femme vertueuse? Déjà, quand on pose la question, il y a presque la réponse dans la question. C'est quasiment impossible. C'est parce que c'est pas quelque chose qui se voit. C'est pas quelque chose lorsqu'on voit une personne qui, pour la première fois, on peut dire, ben voilà, c'est une personne vertueuse. Parfois, les apparences sont trompeuses. On peut se faire des idées. Est-ce que c'est réellement ça? Et puis, vertueux par rapport à quoi? Par rapport à quels critères? Par rapport à quelles valeurs? On va se rendre compte, en étudiant la parole de Dieu, que ce qui définit une femme vertueuse, ce n'est pas le choix d'un homme, mais c'est le choix de l'Éternel. C'est l'Éternel qui va décider. C'est l'Éternel qui va finalement donner cette réponse. Quand l'homme se pose des questions, quand l'homme fait des choix, souvent l'Éternel le reprend et lui dit, ben non. Là, tu fais une fausse route, là, tu t'égares. Celle qui t'est destinée, celle que moi, j'ai choisie pour toi, c'est pas là où vont tes yeux, c'est pas là où va ton cœur, c'est pas là où va ton imagination, c'est pas là où vont tes considérations. Mais moi, le choix que je fais, je sais que c'est le bon choix, parce que c'est la bonne personne qu'il te faut, parce que c'est une personne que moi, j'ai choisie. Et je la choisis pas selon les critères des hommes, mais je la choisis selon des critères divins. Et déjà là, on peut se rendre compte que la première des questions qu'on peut se poser, c'est qui peut trouver? C'est l'Éternel qui peut trouver. Donc, pour les hommes qui se posent cette question, où est-ce que je peux trouver une épouse? Quelle sera mon épouse? Ben, la réponse, elle est là. Qui peut trouver? L'Éternel peut trouver une épouse. Une épouse selon son cœur. Et si tu trouves une épouse selon le cœur de l'Éternel, tu sauras te construire une vie selon l'Éternel. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Bah oui, c'est les petits soucis de la vie. Si on doit tout gérer, si on doit s'inquiéter de tout à un moment donné, ça nous accapare notre existence. Mais quand on sait qu'on peut avoir une aide et qu'on peut se confier sur cette aide, qu'on peut se confier totalement sur cette présence qu'on a à côté de nous, ça nous donne du temps, ça nous donne de l'espace, ça nous donne de la latitude pour nous consacrer à d'autres tâches. Finalement, nous sommes sur un appui. Nous pouvons nous confier. On sait, ben voilà, toi tu vas t'occuper de ça et moi je vais m'occuper de ça. Et je ne me fais pas de soucis par rapport à cela. Quand on dit les produits ne feront pas défaut, vous rentrez à la maison, vous vous dites bah, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, de quoi je vais me vêtir, est-ce que c'est propre, est-ce que je peux inviter quelqu'un, est-ce que j'ai du. Voilà. Tout le temps on se pose des questions par rapport aux mille et une choses des soucis de la vie. Quelque part, à la longue, ça va nous pourrir l'existence. Imaginez-vous un petit peu, vous rencontrez un ami dans la rue et vous lui dites, écoute, viens, je t'invite vite chez moi, comme ça on pourra discuter de choses et d'autres. Vous rentrez à la maison, rien n'est rangé, la table est sale, la vaisselle n'est pas faite, ben, l'image que ça va vous donner de votre couple, elle sera catastrophique. Tandis que là, vous ne faites pas de soucis pour ça, si vous avez la femme qu'il faut, si ce souci-là, vous ne l'avez pas. Parce que vous savez que vous pouvez vous confier que chacun fait son boulot et vous n'aurez pas à avoir honte. Vous aurez ce qu'il faut à la maison. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Ça, c'est la constance. Là, on est dans la constance, on n'est pas dans les vagues. Hein. Un jour c'est haut, un jour c'est bas, et ceci et cela. Comme aujourd'hui, la mode, c'est le divorce. Allez hop! Deux disputes, un machin et un truc, et puis chacun part de son côté. Ben non, là, on sait. Que tous les jours de sa vie, on peut compter sur la femme vertueuse. On peut compter sur elle. C'est une force. C'est un véritable trésor. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que souvent, quand un homme rentre à la maison, soit il est fatigué, soit il est énervé, soit il peut être blessé, hein, mille et une manières, etc. Mais il sait que quand il rentre, il pourra s'appuyer sur son épouse, elle sera là. Et ça, tous les jours. Et là, on lui dit, elle lui fait du bien. C'est pas comme certains maris qui rentrent à la maison et c'est les engueulades, c'est le mépris, c'est des choses comme ça. Elle lui fait du bien. C'est important. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. C'est-à-dire, elle n'attend pas du mari qui fasse quelque chose, elle prend une initiative et à partir de là, bah, elle se met à la tâche. Elle est en production. Elle sait ce qu'il faut Et quand elle a du temps, elle a un espace qui lui est favorable pour combler finalement les moments qui pourraient être des moments d'inaction. Elle reste pas paresseuse. Elle se met à l'ouvrage. Et elle se procure ce qu'il lui faut. Si elle ne l'a pas, ben elle le cherche. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Là, c'est, si je trouve pas sur place ce qu'il me faut, ben je bouge. Je vais à droite, à gauche. Je cherche la bonne affaire, je discute. Si je ne peux pas l'avoir, j'essaye par l'entremise de quelqu'un, le trouver, etc. Ça veut dire qu'il faut être un peu futé, faut faire preuve d'un peu d'audace et puis de ruse s'il le faut. Aller à droite, à gauche, pour trouver la bonne occasion, pour trouver la bonne affaire et ainsi faire tourner la boutique. Parce qu'on parle carrément de marchand. Hein. C'est comme un marchand qui va à droite, à gauche. Donc le marchand, c'est j'achète, je vends. J'essaye de faire en sorte que mes comptes soient équilibrés. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Donc là, ça veut dire qu'elle est la première en tout. Hein. Donc précède toute chose. Avant même que les personnes qui sont dans la maison sont en éveil, elle est là. Elle prépare finalement la journée. Prépare la journée pour les siens, pour sa famille, mais aussi pour ceux qui travaille pour elle. Donc elle est prévoyante, elle est ordonnée, c'est une gestionnaire. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. S'il y a une opportunité, elle la saisit. Elle n'a pas peur, elle a confiance. Et puis c'est aussi quelqu'un qui ne se satisfait pas de ce qu'elle a. C'est quelqu'un qui veut bâtir, qui veut construire, qui veut se développer, qui ne veut pas se reposer sur ses lauriers. Elle considère que la vie, c'est une opportunité, que cette opportunité, il faut la saisir. Et donc, si l'Éternel lui permet de saisir un bien et qu'elle est en capacité de pouvoir l'acquérir, elle le fait. Elle le fait parce qu'elle dit, je pourrais m'enrichir, je pourrais apporter du bien à ma maison. Et non seulement elle acquiert ce bien, mais en fait, elle le fait fructifier encore. Elle achète un champ et alors elle travaille pour y planter une vigne. Elle n'attend pas que son mari le fasse, elle prend l'initiative. Elle dit, je le ferai. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Donc, non seulement elle travaille, mais en plus elle s'endurcit. C'est quelqu'un qui, étant toujours à l'ouvrage, se raffermit, se renforce. C'est comme un sportif qui, jour après jour, dans son effort, progresse parce que il se laisse pas aller, progresse parce qu'il considère qu'il a un but à atteindre. Ben là, la femme vertueuse, c'est la même chose. De par son travail, de par son courage et sa ténacité, elle se renforce, elle s'affermit. Son corps devient plus costaud, ses membres deviennent plus durs parce qu'elle ne se ramollit pas, elle va de l'avant. Il y a tellement de femmes qui ont plus de soucis de leur personne qui est tellement précieuse, qu'il faut surtout pas faire un effort et puis qu'on court dans les instituts de beauté pour se faire jolie, pour se faire belle, se faire bronzer, j'en passe et des meilleurs, et qui finalement sont mollassonnes parce que la notion même d'effort les effleure pas. Faut surtout pas trop en faire, faut paraître parce que avoir des muscles saillants, avoir un peu la peau dure, ça ne sied pas à une femme. C'est pas féminin. Voilà, le Seigneur nous dit que c'est plutôt l'inverse. Une femme qui s'attelle à la tâche, c'est une femme qui a un corps ferme, un corps robuste. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle veille. C'est dans la suite logique de ce qu'on a dit avant. Hein. Elle acquiert un champ, elle le fait fructifier, elle sent que ce qu'elle a fait est bien. Parce que en faisant ces choses-là, finalement, elle prépare l'avenir. Elle prépare les moments qui viendront un jour et qui de toute façon sont moins heureux, et comme elle a su le préparer, elle le passera de manière beaucoup plus facile. C'est une certaine manière de veiller sur les autres. C'est du fruit de son travail. Finalement, elle a le souci de sa maison. Elle dit, si ce que je prépare pour demain est bon, si demain est un jour qui finalement sera un jour plus dur, un jour de disette ou bien un jour de malheur, un jour on ne sait pas, il peut y avoir un orage, un jour où un pépin peut arriver. Ah ben du fait qu'elle aura su préparer sa maison de manière efficace, en faisant les bons choix, les bonnes acquisitions au bon moment, elle passera le moment de l'épreuve beaucoup plus facilement. Et ceux de sa maison ne seront pas affectés par les inévitables moments pénibles qui peuvent nous affecter un jour ou l'autre dans notre existence. C'est vraiment l'image de quelqu'un qui est toujours attentif, qui, lorsque la nuit vient, allume la lampe et la laisse allumer. C'est-à-dire, on ne sait jamais ce qui peut arriver la nuit. Un voleur peut venir, un enfant peut être malade, il peut y avoir un orage, il peut se passer quelque chose. Si vous êtes en pleine nuit noire et que vous devez absolument intervenir, vous devez absolument faire quelque chose, c'est pas comme aujourd'hui, vous vous levez, vous allumez la lumière, c'est électrique, ça se fait instantanément, à l'époque c'est pas le cas. Donc, si vous devez trouver une lampe, allumer la mèche, etc., etc., et que vous êtes dans l'urgence, c'est une énorme perte de temps et ça peut être dramatique dans certains cas. Donc, c'est une femme qui sait être prévoyante et qui veille, qui ne laisse pas la lampe s'éteindre. Elle ne veut pas être surprise au milieu de la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Donc, elle tisse. Elle file la laine. Donc là, c'est pareil, c'est comme l'acquisition du champ. Il y a des périodes où on peut être dans les champs, il y a des périodes où on est à la maison, il y a des époques, il y a des saisons pour ça. Mais à chaque saison, son travail, on prépare le travail. Finalement, filer la laine, c'est comme acquérir un champ. Tisser du lin, c'est comme acquérir un champ. C'est exactement la même chose. Parce que finalement, vous préparez le bien de demain. Acquérir un champ, c'est une chose, mais après ça, le faire fructifier, c'en est une autre. Et ce qu'elle fait en préparant la laine, en préparant le lin, en tissant des toiles, finalement, en faisant toutes ces choses-là, c'est un travail de préparation qu'elle fait pour plus tard faire des tapis, pour plus tard faire des vêtements, pour plus tard faire fructifier encore plus son travail. Elle a fait une acquisition. Et elle compte bien en tirer une plus-value. Un simple bout de tissu ne vous apportera rien. Mais par contre, si vous avez le savoir-faire, et puis si vous avez de l'allant, et puis que vous voulez absolument y arriver, on peut faire énormément de choses avec le tissu. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de croix moisie. C'est-à-dire, il y a un temps pour faire du tissu, et puis la réponse vient tout de suite après. Le jour où le froid vient, on est bien content d'avoir une couverture à se mettre sur le dos. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Alors là, non seulement elle sait préparer sa maison pour l'hiver, mais aussi elle prépare les habits pour honorer son époux, parce que c'est pas n'importe qui est vêtu de pourpre. Le pourpre était réservé aux dignitaires. C'est ainsi qu'on les reconnaissait. Donc une femme qui tisse finalement une toile qui va la teindre de pourpre, bah c'est qu'elle a l'espérance que son époux deviendra un notable, que son époux deviendra quelqu'un d'important, et elle prépare déjà l'habit qui lui sera nécessaire pour le moment où il sera reconnu comme un chef dans la ville. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. On est toujours encore dans la suite, ça continue, je fais le tissu, de ce tissu je fais un habit de pourpre, et puis après ça, son mari est considéré aux portes de la ville. Aux portes de la ville, il y avait avec les chefs, il y avait avec les notables, puisque c'est eux qui jugeaient le peuple, c'est eux qui l'enseignaient et qui le dirigeaient, donc c'est l'endroit où il siégeait. C'est un peu comme la mairie aujourd'hui, ou un palais. Les dignitaires, les notables, les rois, tous ces gens-là, ben, ils allaient aux portes de la ville. Son mari est considéré aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Cette femme vertueuse donne une certaine renommée à son époux qui finalement lui permet de siéger avec les autres. Parce qu'on le reconnaît comme étant quelqu'un de bien. Il dit avec une femme pareille, ah mais on ne peut qu'être quelqu'un de bien. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Il faut quand même savoir qu'en ce temps-là, les habits, c'était quelque chose de grande valeur. Aujourd'hui, on se dit, on va dans un magasin, on va acheter une chemise à trois fois rien, hein, Made in China. Mais à l'époque, c'était beaucoup de travail. cette véritable richesse. Parce qu'il faut vous dire que une femme passe énormément de temps à cueillir le lin, le travailler, le filer, le tisser, le teindre et finalement le découper, le coudre pour en faire un habit. Donc un habit, c'est quelque chose de grande valeur. Et donc là, on dit, elle fait des chemises et les vend. Donc ça veut dire, elle apporte vraiment beaucoup de richesses dans la maison. Elle livre des ceintures aux marchands. C'est là que dans les ceintures qui mettent leur bourse, qui mettent ce qui a le plus de valeur. C'est vraiment une femme qui sait être reconnue par tout le monde, et même par les gens qui ont des biens, même par des gens qui savent gagner de l'argent et s'enrichir. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Donc là, la femme qui a fait toutes ces choses-là, elle grandit en estime. Quand on parle de force et de gloire, là, il ne s'agit plus du tout de force physique, mais il s'agit vraiment de force morale qui finalement lui apporte une certaine notoriété dans la ville. Une notoriété à son époux, mais aussi à elle-même. On la reconnaît pour ce qu'elle est, et elle en tire une gloire. Comme un roi, comme un combattant qui reviendrait du champ de bataille victorieux, la femme qui sait faire toutes ces choses-là, qui est intègre dans toutes ses voies, constante, eh ben c'est une gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle se rit de l'avenir, on voit pourquoi, parce que finalement, elle a su préparer l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. C'est pas seulement une femme travailleuse, c'est aussi une femme intelligente. Parce qu'elle sait tenir sa langue et lorsqu'elle parle, elle parle avec sagesse. Suffisamment de sagesse pour pouvoir instruire les autres. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Là, on a vu, la lampe ne s'éteint pas. On prépare l'hiver. On cherche les aliments même très loin s'il faut les trouver. C'est vraiment quelqu'un qui sait faire ce qu'il faut au moment où il le faut. Elle sait préparer les choses. Et elle n'est pas paresseuse pour ça. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Ça veut dire que dans sa maison, elle est reconnue pour son travail. Elle est reconnue pour ses bienfaits. Imaginez-vous une maison où les enfants se lèvent quand paraît la mère. Imaginez-vous une maison où le mari se lève quand la femme arrive. Ben, c'est vraiment un honneur. On parle de gloire, ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire, en règle générale, surtout dans les pays sémites, on se dit toujours, bon, la femme, c'est rien du tout. Ben non, là, elle est honorée par son mari. Son épouse se présente, il ne reste pas assis et puis il attend, comme si elle n'existait pas. Ben non. Pour l'honorer, il se lève. Et puis, ses enfants se lèvent. Il n'y a là ni trace de mépris, ni trace d'indifférence. C'est vraiment la femme vertueuse qui est reconnue pour toutes ses vertus, qui est reconnue pour tous ses bienfaits. Et à commencer par les gens qui sont dans sa maison, qui l'honorent pour son travail, qui l'honorent pour ses paroles, pour sa bonté, pour son amour. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alors là, on pourrait presque dire que c'est l'Éternel qui parle et qui s'adresse. Elle dit, bah oui, en général, les femmes, ce qu'elles veulent, c'est paraître, c'est être jolies, séduisantes. Mais là, le Seigneur, il est clair, net et précis. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Le Seigneur nous dit qu'il y avait pour les femmes des degrés de vertu. Un certain nombre de femmes peuvent faire certaines de ces choses, mais celle qui vraiment sera reconnue par le Seigneur, c'est celle qui les fait toutes. C'est celle qui épouse l'intégralité de ce qui est marqué dans ce chapitre. Celle-là, le Seigneur dit, elle est parfaite. Tu les surpasses toutes. Elle pourrait être jolie, elle pourrait être la plus merveilleuse des femmes, ça pourrait être un canon de beauté, elle pourrait être couverte de bijoux, elle pourrait avoir les habits les plus merveilleux. Ça n'a aucune importance. Ce n'est pas la beauté, ce n'est pas l'apparence, c'est la femme qui fait toutes ces choses, qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'aux portes ses œuvres la louent. Alors là, nous sommes dans la quintessence du tout, parce que dans la Bible, c'est la seule et unique fois que la louange est attribuée à une personne. La louange, alléluia, c'est-à-dire que loué soit le Seigneur, la louange va toujours vers le Seigneur. Et là, c'est alléluia, louez-la, elle, la femme vertueuse. Le Seigneur parle, le Seigneur qui a inspiré ce texte dans la parole, qui conclut finalement le livre des Proverbes, c'est le Tav, l'accomplissement de toute chose. Nous sommes au bout du tout. Et bien, le Seigneur dit « Alléluia ». C'est le Seigneur qui parle, c'est le Seigneur qui s'exprime, qu'elle soit louée. On touche là au principe même de la divinité. C'est de la femme qui s'exprime ainsi. La femme qui, dans sa vertu, va au bout de son accomplissement, bien, quelque part, a épousé le principe du divin. Elle a, par sa stature, donné une dimension nouvelle à son existence, qui fait d'elle pratiquement l'égale du Seigneur. Pourquoi ? Mais parce que dans son attitude, elle représente ce que le Seigneur attend de l'homme. Il a épousé la forme du divin dans le sens où ça répond exactement au désir de Dieu. Voilà ce que je veux. Voilà ce que j'attends. Si tu fais parfaitement ces choses-là, si tu épouses la parole et si tu la mets en œuvre, si tu l'accomplis, alors la parole devient vivante, la parole devient chair. C'est ce que Yeshua a fait quand il était sur terre. Mais une femme, quand elle répond par son attitude, par son travail, par sa noblesse d'âme, par son intelligence, par sa sagesse, quand elle fait toutes ces choses-là, elle atteint la perfection selon le vœu même du Seigneur. Ce faisant, elle est cet idéal que chérit l'Éternel, qui épouse parfaitement la pensée de Dieu. Ce faisant, elle touche à la perfection. Et l'Éternel lui-même la loue. Elle dit « Je te loue parce que vraiment tu es glorieuse ». Nous sommes là dans une image de la perfection. C'est une image de la femme, selon le cœur de Dieu. C'est aussi une image de l'Église. C'est une image d'une projection du peuple de Dieu au travers des siècles, au travers des temps, qui démarre avec l'histoire des hommes et qui s'achève avec l'histoire de tous ceux qui finalement, à quelque part, ont suivi le Seigneur. Et là, le Seigneur nous donne un exemple au travers d'un symbole, d'une femme parfaite. À travers de cette femme parfaite, le Seigneur attend de tout son cœur un peuple qui lui soit bien disposé, un peuple qui épouse les vertus de la femme parfaite. C'est là un mystère, c'est là quelque chose qu'on ne peut pas appréhender, nous, en tant qu'être humain, parce qu'on se dit une personne comme ça, ça ne peut pas exister. Et pourtant, l'Église de Christ, le peuple de Dieu, ceux qui font confiance à l'Éternel, prient dans son ensemble, épousent parfaitement ces vertus-là, épousent parfaitement les désirs du Seigneur. Pourquoi ? Parce que c'est un ensemble, c'est un corps constitué. Ou si un y défaille, un autre prend le relais. Où chacun, finalement, complète les défauts de l'autre. Pris tous ensemble, à quelque part, on peut atteindre la perfection. Et bien là, nous deux avons beaucoup à apprendre. Là, nous avons un cheminement à parcourir. Et on va suivre ce chemin en étudiant les femmes les plus remarquables de la parole de Dieu. Voir comment le Seigneur a agi, comment le Seigneur intervient au travers des femmes bibliques, pour comprendre la pensée de l'Éternel, la pénétrer par rapport aux relations que peut avoir le peuple vis-à-vis de son Dieu. Or, pour savoir ce que le Seigneur il attend de nous, le plus simple, c'est d'étudier des couples, voir comment les choses se sont passées, quelle a été leur histoire, et puis après ça, en tirer l'enseignement nécessaire pour pouvoir le projeter dans l'intégralité de la parole de Dieu et comprendre dans sa finalité ce qu'est l'épouse de Christ, ce qu'est l'Église, ce qu'est le peuple de Dieu et pouvoir nous insérer, pouvoir nous fondre dans ce corps. Alors là, quand j'ai parlé de femme vertueuse, la femme vertueuse, c'est un mot qui est utilisé dans le reste de la Bible, dans d'autres contextes, qui nous permettent un petit peu de mieux appréhender le texte. Dans Deutéronome 3,18, on peut lire ça. « En ce temps-là, je vous donnerai cet ordre. L'Éternel, votre Dieu, vous livre ce pays pour que vous le possédiez. Vous tous, vaillants soldats, vous marcherez en armes devant les enfants d'Israël. Vous tous, vaillants soldats. » Vaillant soldat, c'est le même terme qui est utilisé quand on parle de la femme vertueuse. Dans Juges 6,12, l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Toujours encore le même terme. Vaillant héros. Psaume 18, 39. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu me ceins de force. Le mot force, c'est toujours encore le même mot. Proverbe 12, 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Voilà, dans ce passage, quand on parle de carie dans ses os, on parle de corruption, on parle de mort. Et là, le Seigneur y met sur les deux plateaux de la balance les termes qui pourraient être les plus opposés. La femme vertueuse, c'est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie de ses os. Là, ça veut dire que celle qui apporte la mort, eh bien, c'est juste le parfait contraire. Celle qui fait honte, eh bien, finalement, elle apporte la mort et la destruction. Ça nous donne un autre relief, un autre sens encore de la compréhension qu'on peut avoir de la femme vertueuse. La femme vertueuse, c'est donc celle qui apporte la vie. C'est celle qui apporte l'espérance. Ésaïe 61, 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Vous mangerez les richesses des nations. Le mot richesse est toujours encore le même mot qu'on peut utiliser pour vertueuse. Nous avons donc là des sens différents, mais qui nous éclairent sur la profondeur de ce que peut être une femme vertueuse. Une femme vertueuse, c'est une femme qui est riche, une femme qui est forte, qui est vaillante, vaillante comme un soldat, comme une armée. Même le mot armée est utilisé dans certains passages. Donc, si on considère la femme vertueuse comme étant un corps idéal que pourrait épouser le Seigneur, eh bien, c'est un corps qui serait constitué de vaillants soldats qui forment une armée et qui sont extrêmement courageux et forts. Pour illustrer mon propos, j'ai donc choisi, pour commencer, de choisir les femmes les plus connues dans la parole de Dieu, celles qui sont dans la Genèse, que j'appellerais les femmes des tantes, c'est-à-dire les femmes des patriarches. J'aurais pu commencer avec Ève, mais Ève, c'est un cas très particulier. On connaît tous Sarah, l'épouse d'Abraham, Rebecca, Isaac, Léa, Rachel. Ce sont les femmes des tantes, celles qui ont accompagné leur mari. Elles ont chacun eu un destin très particulier. Et donc, je vais commencer par Sarah. Alors, c'est une histoire qui commence il y a très longtemps, qui inaugure une ère nouvelle. Puisqu'avec Abraham, on passe du temps des patriarches qui partaient d'Adam, en passant par Noé jusqu'à Abraham, qui étaient une lignée, qui étaient des hommes qui n'ont pas laissé beaucoup de traces dans la parole de Dieu, et pour cause, à part Noé. Mais brusquement, les choses vont changer avec Abraham. À partir d'Abraham, le Seigneur donne une dimension nouvelle aux relations qu'il a avec ses enfants. Puisqu'avec Abraham, on va passer de l'époque des patriarches, qui se succèdent les uns derrière les autres, à l'homme qui va donner naissance à un peuple. L'Éternel va donner une dimension nouvelle à son nom. Il va se faire connaître, et il va se faire connaître au monde. C'est-à-dire, il ne va pas se laisser connaître uniquement par un homme qui va invoquer son nom, mais il va se faire connaître d'un homme dont seront issues de nombreuses nations, et ces nations vont connaître le nom de l'Éternel. Donc le Seigneur a décidé de changer la nature de ses relations avec l'humanité, et nous allons voir comment les choses vont se passer, et comment finalement le Seigneur va intégrer le rôle nouveau de la femme dans ce plan divin. Il y a toute une généalogie dans la parole de Dieu qui nous amène progressivement de Adam jusqu'à Abraham. Et dans Josué 24, 2, on peut lire ça. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térakh, père d'Abraham et père de Nakhor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. » Donc ce que nous révèle ici la parole de Dieu, c'est nous avons une suite de patriarches qui sont partis d'Adam pour arriver au père d'Abraham, et que finalement, à la fin, ces patriarches ont oublié le nom même de l'Éternel et servaient d'autres dieux. Donc on part vraiment de très loin. On part vraiment pratiquement d'une situation où le Seigneur a quasiment cessé d'exister dans la conscience des derniers patriarches. C'est-à-dire que son nom a presque été effacé de la mémoire de l'humanité. Et c'est dans ce contexte très particulier que le Seigneur va choisir d'agir. Voici l'histoire de la famille de Térakh. Nous sommes ici dans la Genèse, chapitre 12, verset 27. Térakh eut pour fils Abram, Nahor et Haran. Ce dernier fut le père de Lot. Haran mourut du vivant de son père Térakh, dans son pays natal à Ur en Chaldée. Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Saraï, et celle de Nahor, Milca. Milca était la fille de Haran, qui, outre Milca, avait eu une autre fille du nom de Yiska. Saraï était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Térakh partit d'Ur en Chaldée, emmenant avec lui son fils Abraham, son petit-fils Lot, le fils de Haran et Saraï, sa belle-fille, la femme d'Abraham, pour se rendre au pays de Canaan. Mais arrivé à Haran, ils s'y établirent. Térakh vécut 205 ans, puis il mourut à Haran. Donc là, on a un petit résumé de la famille d'Abraham et de ce qu'ils ont fait. Bon, on sait qu'ils vivaient à Ur en Chaldée. Ça, c'est dans le sud de la Mésopotamie, dans ce qu'on appelait à l'époque Sumer, et qu'ils ont décidé de partir pour aller en Canaan. Mais pour une raison indéterminée, le voyage s'est interrompu, et ils se sont arrêtés dans une ville qui s'appelait Haran. Et puis, ils ont décidé d'habiter là-bas, et puis de s'y établir, et sont restés des années, jusqu'à ce que le patriarche Térakh, à 205 ans, mourut. Bon, quand on lit ça comme ça, on se dit, ben voilà, la chose est dite. Que dire de plus? Voilà, c'est comme avec Élie. Si vous voulez comprendre le fin fond de l'histoire, il faut se replonger dans le contexte. Sinon, on passe à côté de tout et on comprend rien. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, on va faire un petit voyage dans le temps, on va faire un peu d'histoire, pour recadrer les choses et remettre les choses au bon endroit et leur donner un sens. D'abord, la ville d'Ur, en Chaldée, Ur. Qu'est-ce que c'est que ça? Une simple ville comme ça, parmi d'autres? Pas du tout. Il faut quand même savoir que dans le croissant fertile, la civilisation a démarré dans le sud de la Mésopotamie, à Sumer. Ce qu'on appelle aujourd'hui le châtel arabe, quand on fait une triangulation géométrique avec les données que nous donne la Genèse par rapport à Éden, ben ça nous fixe à quelque part dans le delta des deux fleuves qui se rejoignent, le Tigre et l'Euphrate. Donc on est dans un pays de roseaux, de limon, d'argile, et la civilisation a démarré là. C'est là qu'est partie la civilisation sumérienne, les villes les plus anciennes. C'est là qu'on a inventé l'écriture, la notion même de cité, la notion de société évoluée avec des lois, des règles, la religion, qu'on a commencé à construire des temples, toutes ces choses-là. Tout a démarré là. Et la civilisation sumérienne a connu une apogée jusque pratiquement au déluge. Et après le déluge, la nation, le royaume qui lui était voisin, qui s'appelait Akkad, l'a envahi. Et ils ont fait une union des deux royaumes. Le royaume d'Akkad et le royaume de Sumer sont tout de suite après le déluge devenus une seule nation. Et une ère nouvelle a commencé. L'homme qui a été l'artisan de cette union, c'était un roi qui s'appelait Sargon d'Akkad. Cet homme, ce roi, avait envahi l'ensemble des cités-états sumériennes, sur lesquelles il étend sa domination d'Élam à la Syrie. Pour l'époque, c'était déjà un royaume extrêmement étendu. Il décide de faire de la ville d'Ur la capitale de son empire. Le dieu Lune devient alors le dieu principal. L'histoire qu'on raconte maintenant, c'est l'histoire de royaume, mais ceci l'histoire de dieu. Les Sumériens avaient inventé un panthéon très complexe, très hiérarchisé. Les dieux principaux fonctionnaient souvent avec trois dieux majeurs, une triade. Et pour les Sumériens, les trois dieux principaux, c'était Enlil, Enki et la mère des dieux. Pour Akkad, c'était différent. Mais en absorbant la culture sumérienne, ils vont aussi absorber les dieux et ils vont continuer sur cette lancée. Mais comme on l'avait déjà vu avec Élie, et en étudiant l'histoire des différents rois au travers de l'Antiquité, lorsqu'une cité avait un dieu tutélaire, lorsque ce dieu tutélaire prenait d'assaut une autre ville, ou bien s'ils arrivaient à conquérir un autre royaume, on considérait que ce dieu était plus fort que les autres. Et donc, ce dieu absorbait la puissance et l'autorité des autres dieux, et par syncrétisme, un dieu, au fil des siècles, au fil des nations, réussissait à s'imposer sur tous les autres. C'est ce qui s'est passé avec Ishtar, on l'avait vu, du temps d'Élie. C'est ça traversé les siècles, ça traversé les millénaires, et petit à petit, ça a absorbé tous les dieux des panthéons de l'ensemble du croissant fertile, pour à la fin ne laisser que deux dieux majeurs qui étaient Baal et Astarté. Et tous les autres dieux, petit à petit, ont perdu de l'influence, ont perdu de l'importance, et on les a pratiquement oubliés. Là, on fait un grand bond en arrière dans le temps, et donc ce n'est pas encore Astarté et Baal qui sont les dieux majeurs, mais ce sont leurs parents, ce sont ceux qui les ont précédés. Et ceux qui ont précédé à la dynastie des Baal et des Astarté, des Marduk, et toutes ces générations qui viendront 2000 ans plus tard, c'était le dieu du soleil, le dieu de la lune, Vénus. C'était des dieux planétaires qui avaient chacun leur nom. Et donc, c'était les pères des dieux qui plus tard seront les dieux principaux de Babylone. Mais là, les dieux d'Élie, c'était 800 ans avant Jésus-Christ. Et là, la période dont on parle, avec Sargon d'Akkad, on est en 2350 avant Jésus-Christ. Nous sommes beaucoup, beaucoup plus loin dans le temps. Et c'est une histoire qui va se développer maintenant jusqu'à Abraham. Et Abraham, c'est à peu près 2000 avant Jésus-Christ. Donc ce sont les dieux de cette époque qu'il faut connaître et donc il faut prendre conscience. Et donc le dieu tutélaire de la ville d'Ur, c'était le dieu de la lune. C'était le dieu le plus important de l'époque. Celui qu'il suivait et qui était moindre en importance, c'était le dieu du soleil. Et encore une fois moindre en importance, c'était l'étoile de Vénus, qui plus tard deviendra Astarté. Mais pour l'instant, on va continuer avec ça. Donc Sargon d'Akkad décide d'unifier deux royaumes, qui sont le royaume de Sumer et d'Akkad, pour faire quelque chose de neuf. Un nouvel empire, si on veut, avec une nouvelle capitale, et cette capitale, c'est Ur. Le dieu d'une devient alors le dieu principal. Sargon garde l'écriture cunéiforme des Sumériens, mais il change le nom des dieux. Le dieu Nannar devient ainsi le dieu Sin, un dieu masculin représenté par le croissant de lune, et la pleine lune devient un dieu féminin qui porte le nom de Ningal, relié à la fécondité. Sin vient de l'acadien Enzu, qui signifie « le Seigneur sait ». Sous sa forme inversée, nous obtenons Tsu-en, d'où la contraction Sin. On construisit dans la ville d'Ur une ziggurat, c'est un temple-montagne, c'est une espèce de pyramide à degrés, mais pas comme les Égyptiens. Là, en l'occurrence, c'est une bâtisse qui est très grande pour l'époque et qui, en général, avait 3 degrés, 3 niveaux. On appelle ça un temple montagne, représentation miniature de toute la Terre, en trois étages, pour l'honneur du dieu de la Lune. Au troisième niveau, il y avait une chapelle qu'on appelait l'embarcadère sacré. C'était la barque lunaire où se rendaient le roi et le clergé, composés d'hommes et de femmes, lors des grandes fêtes. Ce culte au dieu Lune connut une réelle ferveur populaire dans tout le Moyen-Orient, ce qui explique les efforts d'Ézéchias et de Josias pour l'enrayer. On punissait de mort par lapidation quiconque s'y adonnait sur le territoire de Juda. La dynastie de Sargon dura environ 200 ans. Puis, entre 2132 et 1894 avant Jésus-Christ, apparurent de nouveaux royaumes, les Amorites, la dynastie d'Isin, de Larsa, de Mari. Certaines cités-états voulurent retrouver leur hégémonie. La civilisation sumérienne va alors connaître une renaissance, notamment grâce aux villes de Larsa, Isin et surtout Lagash, où son roi Gudea va s'illustrer et dominer la région. Puis, c'est au tour d'Ur, entièrement dédié au dieu Nana. Là, il va retrouver de nouveau son nom sumérien. Où le roi d'Ur, Namu, qui vécut en 2113 jusqu'à 2095, qui veut dire guerrier de la déesse Namu, fonde la troisième dynastie. Donc après le royaume de Sargon, nous allons avoir une renaissance de nouveau des cités sumériennes, avec de nouveaux rois, qui vont recommencer de nouveau une nouvelle dynastie. Cette dynastie de grands guerriers va reconquérir tous les territoires perdus et apporter à la région un siècle de prospérité. Il établit une nouvelle capitale à Ur et recentralise l'administration. Après avoir fondé la troisième dynastie, il prend le titre de roi de Sumer et d'Akkad et gouverne ainsi sur les villes d'Ur, d'Eridu, Larsa, Lagash, où il soumet Namanmazi, Nippur et Uruk. Toutes ces cités étaient des très grandes cités pour l'époque. Il faut se rappeler qu'on a quand même 4000 ans avant Jésus-Christ et que la terre était très peu peuplée. Or, c'est quand même dans cet endroit-là que la civilisation a commencé et c'est dans cet endroit-là que les villes étaient les plus grandes. C'est un roi très pieux. Il restaure de nombreux temples dans le pays et permet leur bon fonctionnement en choisissant lui-même les grands prêtres et les prêtresses dans les principaux sanctuaires. Sa propre fille devient déesse de Nana, à Uruk, où retrouve avec lui sa splendeur d'autrefois. Dans la période où le pays de Sumer et toute la vallée de l'Euphrate furent sous la domination de la cité d'Ur, Nana en vint à être considérée comme le chef du panthéon sumérien. Fils d'Enlil et de Ninlil, on le vénérait comme le père des dieux ou le créateur de toutes choses ou le père de la ville, et sa parèdre Ningal est la mère de la ville. Donc là, on peut vraiment dire que la ville d'Ur était sous la tutelle du dieu de la lune. Et ce dieu de la lune va devenir le chef du panthéon de l'époque. Donc il y avait de très nombreux dieux qui étaient adorés, mais le plus important de tous sera vénéré dans la ville capitale d'Ur, et c'est le dieu Nana, avec sa parèdre, c'est-à-dire on considère sa partie féminine, qui avait le même attribut et qu'on appelait la grande dame, Ningal. Alors Nana, le dieu Lul, et puis Ningal, sa parèdre féminine. Alors Ningal, la grande dame, est la parèdre de Nana, le dieu sumérien de la lune, ainsi que la mère de Utu, Shamash, le dieu soleil, et Inanna Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre. Elle représente l'aspect féminin de la lune. Donc là, on se rend bien compte que c'est le dieu lune, c'est vraiment la génération qui a précédé celle des dieux qui vont venir beaucoup plus tard et qui vont s'imposer et qui aujourd'hui sont considérés comme des fils, c'est-à-dire les Baals et les Astartés. La cité d'Ur, puis après sa destruction, celle d'Aran, seront les deux principaux centres cultuels consacrés au couple Nana-Ningal. À Ur, un temple, le Giparu, était dévolu au culte de la déesse et servait de lieu de vie aux prêtresses attachées à son service. Le Giparu était également le théâtre de cérémonies, notamment celle de la hiérogamie. La hiérogamie, c'est le mariage entre dieux. Une fois dans l'année, le roi et la reine s'unissaient tout en haut de la ziggoura, Et on considérait cette union comme étant l'union entre le dieu et la déesse. Et à ce moment-là, le roi symbolisait le dieu. Son fils, au roi d'Ur, Shulgi, dont le nom veut dire « noble jouvenceau ». Comme son père, Ur-Nammu, voit son règne consacré à des travaux de réfection et de construction des temples, en particulier à Nippur. C'est lui le véritable fondateur de l'empire d'Ur et le réorganisateur de l'État. Ses campagnes lui assureront la domination totale de cette région d'où le gouvernement était installé à Simurum. Shulgi sera adoré comme un dieu. On lui éleva des temples et l'on déposa des offrandes au pied des statues. Une de ces statues, c'est Amarsim, dont le nom veut dire « taurillon de Sin ». Il continue l'œuvre de son père et comme lui, il se nomme le dieu soleil. C'est sous ces deux rois que Sumer atteint son apogée. Il réussit à agrandir l'empire en y annexant une partie de l'Assyrie et en s'emparant d'Assur. Sous Sin, dont le nom veut dire « celui de Sin », deuxième fils de Shulgi, succède à son frère. Dès son intronisation, il doit faire face à des révoltes contestant son autorité. Ubi-Sin doit à son arrivée au pouvoir lutter contre les Hourites. En Élam, il soumet Suse, puis le pays d'Ansan, qui s'était révolté. Mais usé par des guerres incessantes, l'empire s'effrite. Face à la faiblesse du pouvoir central, les cités-états reprennent leur indépendance. En 2009, la Mésopotamie est coupée en deux. Ubi-Sin à Ur et Izbi-Era à Inzin. En 2007-2006, le roi élamite Kindatu salue à Suse, traverse le Tigre et attaque Ur, où Ibn-Sin s'est retranché. Izbi-Era vient au secours de la cité et la sauve de l'invasion. En 2004, la coalition lance une nouvelle offensive et prend la ville qui est mise à sac. Les habitants qui ne pouvaient pas s'enfuir sont égorgés. Ibi-Sin est fait prisonnier et exilé en Ansan. Il sera le dernier roi de la dynastie. Nous avons donc là un certain nombre de rois de Sumer. Les deux premiers donnent tout son lustre à la cité d'Ur et au royaume. Ils en agrandissent les frontières. Et puis ceux qui suivent n'arrivent pas à consolider le royaume qui se fractionne, qui se partage et qui finalement est envahi par les royaumes qui sont alentour. Et donc, le royaume est conquis et la cité d'Ur est détruite. La migration d'Abraham suit donc le mouvement migratoire de ses anciens adorateurs de la lune, de la ville d'Ur à celle d'Aran. On avait vu que la ville d'Ur était finalement sous la tutelle du dieu lune, ainsi que la ville d'Aran. C'était deux villes qui étaient dédiées au même dieu. Et quand on suit l'histoire de la famille d'Abraham, on se rend compte qu'ils ont vécu dans la ville d'Ur et qu'ils sont partis pour aller en Canaan, mais qu'ils sont arrêtés dans la ville d'Aran. Donc ça veut dire qu'ils sont toujours restés dans une ville qui était sous la tutelle du dieu lune. Et finalement, on peut se poser des questions par rapport à cette famille. Quand on sait qu'ils avaient abandonné le culte à l'Éternel pour adorer d'autres dieux, on peut s'interroger, mais quel dieu, finalement, les derniers patriarches ont-ils adoré? Mais c'est le nom même qui nous sont donnés dans la Bible qui nous renseigne à ce sujet. Par exemple, Abraham, avant qu'on y rajoute le H, signifie « père élevé » ou « père haut ». On invoquait souvent le dieu Sin sous le nom de père, et même de père élevé, parce qu'on sait que c'était le dieu le plus grand, le plus important, puisqu'il était considéré comme le père du panthéon. Sarai vient de l'acadien Saratu, qui signifie reine, et de Sarati, nom sous lequel la pleine lune, la déesse Ningal, était adorée. Théra, le père d'Abraham, est proche de Yarak, qui était le nom du dieu lune dans les textes ougaritiques de Rash Shamra. Milka, la femme de Nahor, le frère d'Abraham, vient de l'acadien Malika, signifiant conseillère, autre titre de la déesse Ningal. Laban, le beau-père de Jacob, vient de Lavana, signifiant la blanche, nom poétique de la lune. Finalement, le nom de nos ancêtres sont des noms théophores, qui reprennent finalement les attributs des dieux. C'est des noms qu'on donnait aux dieux. À l'époque d'Abraham, ce culte au dieu Sin était la religion traditionnelle, la religion de leur père, la religion qui était pratiquée dans les villes et dans les campagnes. Même le neveu du dernier roi de Juda, Sédécias, s'appelait Shenakar, qui vient du babylonien Sin Uzur, qui signifie Sin protège, preuve de la survivance de ce culte jusqu'à une époque relativement récente. Donc finalement, qu'est-ce que nous enseignent toutes ces choses-là ? Nous avons un contexte qui est très particulier, où la ville d'Ur devient la capitale principale de la basse Mésopotamie. Et cette capitale était sous la tutelle du dieu Lune. Et finalement, on se rend compte que les patriarches, eh ben, ils avaient abandonné le culte au Seigneur, ne connaissaient même plus son nom, et étaient entièrement dévoués au dieu tutélaire de la ville d'Ur. On sait que Abraham a vécu environ 2000 ans avant Jésus-Christ, ce qui nous place en plein dans le contexte politique qu'on vient de décrire ici, c'est-à-dire un royaume qui a été conquis par Sargon, qui a unifié la basse Mésopotamie, qui a fait d'Ur une capitale, et puis au bout de 200 ans, les Sumériens réussissent de nouveau à s'émanciper de la tutelle des Akkadiens, ils reprennent le pouvoir. C'est eux qui finalement conquièrent toute la région, qui la réunifient, qui conservent à Ur le statut de capitale et qui finalement, en 2000 à peu près, connaissent une rapide décadence et puis sont envahis par les royaumes autour. La ville d'Ur est détruite et les habitants sont massacrés. On comprend à partir de là, une fois que le déclin est amorcé, que le royaume va s'effondrer, que certains de ses habitants décident de partir. Et c'est ce qu'a fait la famille d'Abraham. Le père, Nahor, a décidé de partir, mais il ne va pas n'importe où. D'abord, l'idée première, c'est de quitter toute la région et d'aller dans un endroit totalement différent. C'est-à-dire, on va partir en Canaan. On se rend compte qu'il part de la ville d'Ur, qui est sous la tutelle du dieu Lune, pour aller à Haran, qui est la deuxième ville de Mésopotamie, qui est aussi sous la tutelle du dieu Lune. Et ça, c'est une ville qui n'était pas menacée par les royaumes alentours. Et donc, quand il est arrivé dans cette ville, il s'arrête et il reste là. Et continue d'adorer le dieu de la ville, qui est le dieu de la lune. Et donc, il reste là jusqu'à sa mort. Jusqu'à ce que Abraham, un jour, le Seigneur le visite et lui dit « Il va falloir que tu pars. Il va falloir que tu quittes cette région. » L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Et là, il y a une rupture claire et nette. Abraham prend une décision qui lui est propre. Il ne décide plus de poursuivre dans la voie de ses pères, il ne décide plus de suivre finalement ce qu'on lui a enseigné, de conserver les traditions, d'être au service du dieu Lune, d'habiter dans une ville, d'avoir un certain confort, parce qu'ils étaient riches, ils étaient reconnus. N'oublions pas que Sarai, ça veut dire ma princesse. Abraham portait un des noms du dieu Lune, Sarai, qui portait le nom de sa parèdre, et qui était riche, qui était reconnu. Ils étaient totalement et complètement imbriqués dans le tissu social et religieux des villes mésopotamiennes, des villes où on adorait le dieu de la Lune. Par une vision, par un songe, le Seigneur s'adresse directement à Abraham, il dit de partir. Et il décide de partir, il décide d'obéir. Pour lui, ça devait être un choc, à quelque part, une décision immense, parce que ça l'arrachait, ça l'extirpait littéralement de ses racines. Et il emmène tout le monde avec. Mais là, le Dieu qui s'adresse à lui ne s'est pas encore révélé. Il dit simplement, va, pars, quitte ce pays. Et c'est que beaucoup plus tard que progressivement, Abraham va prendre conscience de ce Dieu, ce qu'il représente et qui il est. Abraham partit donc, comme l'Éternel le lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Haran, dernière ville en Mésopotamie, ville tutélaire du dieu Lune. Il emmena Sarai, sa femme, son neveu Lot, les biens et les serviteurs qu'il avait acquis à Haran, et se mirent en route pour aller au pays de Canaan. Quand ils furent arrivés, Abraham traversa le pays jusqu'à un lieu appelé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. À cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je te donne ce pays à ta descendance et à toi-même. » Abraham érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis, il leva son camp pour se rendre dans la région montagneuse à l'est de Bethel. Il établit son campement entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Il y construisit un autre autel à l'Éternel et le pria. Ensuite, Abraham repartit vers le sud. D'étape en étape, il gagna le Négev. Abraham part d'Aran et arrive à Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Alors encore, on est dans un endroit extrêmement symbolique parce qu'il ne va pas n'importe où. Sichem, c'était une ville importante, où il y avait une forêt sacrée. L'arbre sacré de Sichem, on l'appelait aussi l'arbre des devins. Et en Mésopotamie, l'arbre, c'était le symbole d'Achéra, c'était le symbole de la fertilité, c'était le symbole de l'amour. On rappelait que du temps d'Élie, nous avions des bétiles qui étaient des pierres dressées qui représentaient les divinités masculines, Baal, El, le grand dieu. Et lorsqu'on dressait un poteau, ben ça représentait le symbole de l'arbre. L'arbre de la fécondité, l'arbre de l'amour, l'arbre de la fertilité. À Our, en Chaldée, on a fait des fouilles et on a trouvé dans les tombes royales différents symboles des différents dieux. Par exemple, le dieu Lune était représenté par un taureau et la déesse de la fertilité était représentée par un arbre sur lequel se reposait un caprin, un bouc, comme s'il fertilisait l'arbre. Nous avons là l'image de l'arbre qui représente le féminin, qui est fertilisé par le bouc, qui est l'image du troupeau, qui est l'image de l'abondance dans la vie, parce que les troupeaux de chèvres à l'époque étaient beaucoup plus nombreux que les troupeaux de vaches, par exemple. Et que ça symbolisait aussi l'image de la fécondité et de la fertilité. C'est vers ce symbole que le Seigneur conduit Abraham. Et c'est à cet endroit-là, à Sichem, face à cet arbre, à cet Achéra, à ce symbole de la déesse, de la fécondité et de la fertilité, que le Seigneur apparaît à Abraham pour lui dire « Tu seras le père d'une nation extrêmement nombreuse. » De toi sortiront des peuples. Je donnerai ce pays à ta descendance. Alors qu'il n'avait pas d'enfant, qu'il n'avait pas de descendance. Sarah était stérile. Alors à l'endroit où les femmes allaient pour prier Achéra afin qu'il la guérisse de la stérilité, à l'endroit où les femmes allaient pour prier la déesse pour pouvoir avoir des enfants, à cet endroit-là, l'Éternel apparut à Abraham pour lui dire qu'il aurait une descendance et que cette descendance posséderait le pays. Et là, Abraham érigea un autel à l'Éternel. Donc là, il y a rupture totale avec ce qui se faisait avant. Avant, Abraham avait la connaissance d'un dieu qui était le dieu de Lune. Il adorait les dieux du pays, portait leur nom. Mais là, ben il ne va pas à l'arbre, il ne va pas honorer sous l'Achéra, le dieu qui finalement représentait la paraître du dieu Lune, pas non. Il s'en écarte et il écoute cette voix qui s'adresse à lui. Il croit en ce dieu nouveau qui se présente à lui et il lui offre un autel qui lui est dédié. Vraiment, c'est quelque chose de neuf, c'est une rupture totale. C'est-à-dire, il sort complètement des habitudes établies. C'est un dieu nouveau qui s'adresse à lui personnellement, qui est un dieu vivant. Et donc, il ne va plus dans les temples, il ne va plus dans les symboles religieux classiques, il ne va plus vers ces endroits-là, il ne va plus vers les lieux dédiés, mais vraiment, il fait quelque chose de neuf. Il crée de lui-même, il fabrique de lui-même un autel pour ce Dieu-là. Et partout où il va, et bien chaque fois qu'il s'arrête, et bien il va élever un autel. Il fera ça à Bethel, Haï, et il va faire ça jusque dans le désert du Négev. Quand il va arriver dans le Négev, il va y avoir une famine, il va aller en Égypte, il ne va pas y rester, et il va partir de nouveau. Il revient au pays de Canaan, quitte donc l'Égypte, et d'étape en étape, il retourne du Négev jusqu'à Bethel, au lieu où il avait auparavant établi son campement, entre Bethel et Haï. C'est-à-dire à l'endroit où était l'autel qu'il avait précédemment érigé, et il y pria l'Éternel. Donc il y avait déjà une habitude qui s'est faite. Il s'est définitivement détourné de ses anciens dieux dont il portait le nom, et à partir de maintenant, il a décidé de suivre ce Dieu nouveau qui s'est présenté à lui, ce Dieu vivant, et qui lui a dit de quitter toutes ces choses-là pour le suivre. Ce Dieu qui lui a fait une promesse. Une promesse, c'est qu'il lui a dit qu'il aura une descendance. La première des choses, c'est qu'il a suivi un Dieu, il ne savait pas qui il était, peut-être même qu'il pensait que c'était le Dieu Lune, qui sait. Puis finalement, il s'est rendu compte que ce n'était pas ça. Et à partir de ce moment-là, il a décidé de tourner la page, de tourner le dos au Dieu de ses ancêtres, de ses pères, et d'adorer ce Dieu nouveau, qui petit à petit, c'est quelque chose qui va se faire et se construire progressivement, et bien, va se révéler à lui. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, « Lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains des poussières de la terre. Si l'on peut compter les grains de poussière de la terre, alors on pourra aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. » Alors, Abraham déplaça son campement et vint se fixer près des chênes de Mamré aux environs d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Il faut quand même savoir une chose, c'est que pour l'instant, Abraham n'avait toujours pas de descendance, sa femme était stérile. Et que ce Dieu nouveau, qui ne connaissait pas, que ses pères ne connaissaient plus, lui fait des promesses et lui dit « Regarde, je t'emmène dans un pays nouveau et je le donnerai à ta descendance. » Et Abraham le croit. Abraham croit qu'effectivement, il va avoir des successeurs. Il va être le père de cette nation qui finalement va un jour remplir ce pays. Et il élève de nouveau un autel à l'Éternel. Vraiment, il a confiance. Je saute les passages avec Lot. Lot qui part à un moment donné pour Sodome. Et lui, il va dans une autre direction. Lot qui se fait kidnapper par les envahisseurs qui ont capturé tous les gens qui vivaient à Sodome, qui les emmenaient avec. Et puis, Abraham leur court après pratiquement jusqu'à Damas, récupère Lot et le ramène de nouveau. C'est là, après avoir battu ses rois et ramené Lot, qui fait la rencontre de Melchisédek, à qui il donne la dîme de tout. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. « Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel. Je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Éternel, que me donnerais-tu ? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Éliézer de Damas qui héritera tous mes biens. » « Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui parla en ces termes. « Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. » Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, « Contemple le ciel et contemple les étoiles, si tu en es capable. » Et il ajouta, « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Il lui dit, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » « Seigneur Dieu, répondit Abraham, comment aurais-je la certitude que je le posséderai ?» Dieu lui dit, « Va chercher une génisse, une chèvre et un bélier ayant chacun 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. » Abraham alla prendre ces animaux, les coupa tous en deux par le milieu, excepté les oiseaux, et pour chacun d'eux disposa les deux matiers face à face. Des oiseaux de proie fondirent sur les bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Au moment où le soleil se couchait, une grande torpeur s'empara d'Abraham et en même temps l'angoisse le saisit dans une profonde obscurité. Le Seigneur lui dit, « Sache bien que tes descendants vivront en étranger dans un pays qui ne leur appartiendra pas. On en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je punirai la nation qui les aura réduits en esclavage. » Et quitteront le pays chargé de grandes richesses. Quant à toi, tu rejoindras en paix tes ancêtres et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. C'est seulement à la quatrième génération que tes descendants reviendront ici, car jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leur crime. Lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale, un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit « Je promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmonéens, des Hittites, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Guigarziens et des Yébouséens. » Cette fois-ci, le Seigneur va plus loin. Le Seigneur lui répète, année après année, qu'il aura une descendance. Et cette fois-ci, il scelle une alliance. Pour sceller une alliance à cette époque-là, chacun prenait une partie de la bête qu'on allait offrir au dieu tutélaire. Chacun représentait une partie de cet animal. Et on offrait ça au dieu. Et c'est le dieu qui garantissait la validité du serment qui était fait. Et là, c'est exactement la même chose. Partage les animaux en deux, chacun représente une partie et c'est l'Éternel lui-même qui passe au milieu et qui consume cet holocauste. Nous avons donc là une image qui est très forte, c'est-à-dire que de manière unilatérale, le Seigneur va établir une alliance nouvelle avec Abraham. D'abord, il regarde ce qu'il fait. Il lui fait des promesses et il écoute, il y croit. Le temps passe et il continue d'y croire. Et le Seigneur n'arrête pas de lui dire « Tu auras une descendance, tu auras une descendance. » Et puis le temps passe. Abraham circule dans le pays en long, large et en travers. Et puis à un moment donné, il dit « Oui, mais ça fait maintenant un bon moment que tu me dis que j'aurai une descendance, mais j'ai pas de descendance. C'est mon serviteur qui finalement héritera de moi. » Et c'est là, pour la première fois, que le Seigneur dit « Non, c'est de toi que sortira une descendance. » Abraham, qui se faisait des idées, se dit ça sera peut-être Lot qui sera mon héritier, mon neveu. Mais finalement, Lot, il est parti, il est allé dans son coin, il est parti du côté de Sodome et Gomorre. Donc, c'est pas Lot. Donc, puisque c'est pas Lot, ça sera peut-être Eliezer, mon serviteur. Finalement, c'est celui qui m'est le plus fidèle. Le Seigneur dit non, c'est toi qui auras une descendance, de toi que sortira une descendance. Il dit « Oui, mais je voudrais quand même des garanties. » C'est vrai que le Seigneur, il vient lui-même consumer l'Holocauste qui scelle l'alliance avec Abraham. Et c'est là qu'apparaît Sarai. Parce que c'est finalement le sujet. On va arriver aux femmes. Et on se rend compte que rien peut se faire sans la femme. Le Seigneur a beau établir des alliances, faire des pactes, consumer des Holocaustes avec Abraham, c'est finalement quand même avec Sarai que les choses vont trouver leur finalité, leur accomplissement. Mais avec personne d'autre. C'est quand même le personnage clé de tout ça. Sarai, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, « Toi que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. » L'idée géniale d'épouse. Ce que se faisait à l'époque. C'est-à-dire, si on avait une servante, qu'on était stérile, là-bas, la servante pouvait accoucher sur les genoux de la maîtresse, et alors on considérait que l'enfant était comme venant de la maîtresse. Et ça donnait quand même une postérité à la famille. Et donc, Sarai s'est mise à raisonner. Elle se dit, Abraham me dit que son Dieu, qui lui apparaît régulièrement, lui dit qu'il aura une postérité, mais je vois rien venir, le temps il passe, moi je peux plus, je suis trop vieille. Peut-être que si on fait selon la coutume du pays, on peut pallier au problème. Et donc il suggère ça. Abraham suivit le conseil de sa femme. Sarai, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham, son mari. Il y avait alors 10 ans qu'Abraham séjournait au pays de Canaan. Il s'unit à Agar et elle devint enceinte. Quand elle vit qu'elle attendait un enfant, elle se mit à mépriser sa maîtresse. Alors Sarai dit à Abraham, « C'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai poussé ma servante dans tes bras et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel soit juge entre nous. » Abraham lui répondit, « Ta servante est en ton pouvoir. Agis envers elle comme bon te semblera. » Alors Sarai la traita si durement que celle-ci s'enfuit. Réflexe typiquement féminin. Elle vient, elle suggère l'idée à Abraham pour aller vers la servante. Puis une fois que la servante est enceinte et puis qu'elle commence à se sentir un petit peu elle-même la maîtresse de la maison, Sarai ne l'accepte pas. Et elle fait le reproche à Abraham. Elle dit, bah, regarde-toi ton idée géniale que tu as eue, tu es allé vers elle et puis maintenant elle me méprise parce qu'elle est enceinte et puis que moi je suis stérile. Abraham, qui ne veut pas se mêler de cette histoire, dit, écoute, hein, c'est ta servante, c'est ton idée, débrouille-toi avec ça. Et alors, folle de rage, voyant la tournure des événements, ben, on peut s'imaginer que ça a dû barder dans la tente et qu'elle lui a mené la vie dure, tel point qu'elle est partie. La servante s'enfuit, et pendant qu'elle était en fuite, l'ange de l'Éternel apparut à Agar. Et il lui dit, « Retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » Et il ajouta, « Je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. » Puis il ajouta, « Voici que tu attends un enfant. Ce sera un garçon. Tu l'appelleras Ismaël. Dieu entend, car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il s'opposera à tous et sera en butte à l'opposition de tous. Mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. » Là, il faut quand même dire que le Seigneur y fait fort. Il apparaît à Abraham, lui fait un certain nombre de promesses. Là, il y a une femme qui finalement méprise sa maîtresse. Les choses tournent mal et elle s'en va. Et l'Éternel apparaît à la servante en lui disant, écoute, ce que tu as fait, c'est pas bien, humilie-toi et retourne vers elle. Et il lui fait une promesse. Comme à Abraham, de toi sortira une nation. Tu auras un enfant et lui donne même le nom. Tu l'appelleras Ismaël. Ton fils sera comme un âne sauvage. Tes descendants seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. C'est à peu de choses près exactement la même promesse qui a été faite à Abraham. Où le Seigneur lui a dit, bah, regarde les étoiles du ciel, si tu peux les compter, c'est bien, mais ça m'étonnerait que tu y arrives. Et là, c'est la même chose. L'Éternel s'adresse directement à cette femme. Elle lui fait une promesse de même nature et de même portée qu'à Abraham. Et à Sarai, rien. C'est-à-dire, la femme d'Abraham n'a jamais eu, jusqu'à ce moment, aucun contact avec le Seigneur. C'est toujours par des personnes interposées. C'est-à-dire, le Seigneur est toujours apparu à Abraham. Maintenant, il apparaît à la servante. Mais Sarai, pour elle, c'est l'inconnu total. Elle voit autour d'elle un certain nombre de choses, elle entend autour d'elle un certain nombre de choses, mais elle, rien. Elle se pose des questions, elle s'interroge. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? Qui c'est ce Dieu qui s'adresse à mon époux? Qui c'est ce Dieu qui s'adresse à Agar et qui m'ignore? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je représente? On peut se mettre un peu à la place de Sarai, et vraiment, ça ne devait pas être évident pour elle. C'est quelque chose qui devait complètement la dépasser. Ça allait complètement contre sa culture, contre ses traditions, contre ce qu'on lui a toujours enseigné. Je dis, elle est loin de tout, elle est loin des siens, loin de sa famille. Elle a suivi son époux qui va vers un autre Dieu dans un pays qui lui est inconnu. Et puis maintenant, il y a cette servante à qui le Seigneur s'adresse directement pour lui dire qu'il sera le père d'une grande nation. Il y a franchement, tu peux s'arracher les cheveux. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. Abraham se prosterna la face contre terre et Dieu continua de lui parler en disant, Lorsqu'il se prosterne, c'est que vraiment il reconnaît ce Dieu qui lui parle comme étant son Dieu. Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras l'ancêtre d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abram, Père Très-Haut, c'est-à-dire le nom du Dieu Lune, mais Abraham. On rajoute le H, Père d'une multitude, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants et je te donnerai d'être à l'origine de diverses nations. Des rois même seront issus de toi. Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance après toi. De génération en génération, en vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance, ce pays de Canaan où tu vis maintenant en étranger et en nomade. Il sera votre propriété pour l'éternité, et je serai le Dieu de ta descendance. Puis Dieu ajouta, de ton côté, tu observeras les clauses de mon alliance, toi et ta descendance de génération en génération. Voici quelle est mon alliance avec vous et avec ta descendance. Quels en sont les termes que vous devrez respecter ? Tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis. Vous porterez cette marque dans votre chair, et cela sera le signe de l'alliance entre moi et vous. De génération en génération, tout garçon devra être circoncis à l'âge de 8 jours. Cela s'applique aussi à ton garçon né dans ta maison et aux étrangers qui ont été achetés comme esclaves et qui ne sont pas de ta descendance. Tous, sans exception, seront circoncis, qu'ils soient nés dans ta maison ou acquis à prix d'argent. Ainsi, le signe de mon alliance sera gravé dans votre chair. C'est là une alliance à perpétuité. Celui qui n'aura pas été circoncis sera retranché de son peuple parce qu'il n'aura pas respecté les clauses de mon alliance. Dieu dit encore à Abraham, « Pour ce qui concerne ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, ma princesse, désormais, son nom sera Sarah, reine, princesse. Je la bénirai et je t'accorderai par elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra la mère de plusieurs nations. Des rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Alors Abraham se prosterna de nouveau la face contre terre et il se mit à rire en se disant intérieurement. Eh quoi, un homme centenaire peut-il encore avoir un enfant ? Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle donner naissance à un enfant ? Et il dit à Dieu, « Tout ce que je demande, c'est qu'Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. » Dieu reprit, « Mais non, c'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac, Hilari. Et j'établirai mon alliance avec lui pour l'éternité et avec sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, j'ai aussi entendu ta prière en sa faveur. Lui, je le bénirai, je lui donnerai aussi de très nombreux descendants. Je le multiplierai à l'extrême. 12 princes seront issus de lui et je ferai de lui l'ancêtre d'une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, le fils que Sarah te donnera l'année prochaine à cette époque. » Donc là, le Seigneur attend quelque chose d'Abraham. Il lui dit, je vais faire de toi une grande nation. Je te donnerai ce pays. Je serai ton Dieu. Et eux, ceux qui seront issus de toi, ils seront aussi mon peuple et je serai leur Dieu. Et pour sceller cette alliance, c'est-à-dire qui fait de vous un peuple et moi le Dieu de ce peuple, j'exige de vous, si vous acceptez cette alliance, eh bien de vous circoncire. Ce sera le signe visible que vous êtes d'accord et que vous m'acceptez comme votre Dieu. La première alliance s'est faite de manière unilatérale. C'est le Seigneur qui s'est engagé vis-à-vis d'Abraham. Cette fois-ci, le Seigneur attend que ce soit Abraham qui s'engage vis-à-vis du Seigneur. Si tu es d'accord avec moi, si tu veux bien que je sois ton Dieu, scelle-le dans ta chair. Abraham accepte et dit, bon, ben, puisque tu acceptes que je suis ton Dieu, alors il va falloir changer ton nom, puisque ton Dieu que tu adorais jusqu'à présent et que tu servais, tu portais son nom, c'était le Dieu de la Lune. Ta femme aussi portait le nom du Dieu de la Lune. Et bien maintenant, je vais te donner un nom nouveau. Tu t'appelleras Abraham, ça sera le signe que je suis ton Dieu, parce que je t'ai fait une promesse. Cette promesse, c'était que de toi sortirait une nation nombreuse. Abraham, c'est le père de la multitude, c'est le père des nations. Et Saraï, qui veut dire ma princesse, qui finalement se rapportait à la déesse de la lune, son nom va aussi être changé et elle s'appellera Sarah. Les deux vont recevoir une lettre supplémentaire qui est le principe de la féminité. C'est-à-dire quand on met le « he », le « h » à la fin d'un mot en hébreu, on lui signifie ainsi que ce mot est au féminin. Et donc là, nous avons à quelque part une alliance nouvelle qui est scellée avec Abraham et sa famille, qui finalement lui donne le caractère du féminin. De dire « moi l'Éternel, je serai ton Dieu et toi, tu seras mon peuple. » Mais aussi, on pourrait le traduire comme ça, « je serai ton père, je serai ton époux et toi, tu seras mon épouse. » Nous avons donc là quelque chose de neuf, une dimension nouvelle qui est prise, où au travers de l'alliance que l'Éternel fait avec son peuple, eh bien, se révèle un sentiment nouveau, se révèle une dimension nouvelle, qui est celle d'une relation nouvelle. C'est-à-dire, on vient plus simplement pour adorer le Seigneur, mais on vient vers le Seigneur pour avoir une relation différente. C'est un Dieu qui se révèle, c'est un Dieu qui se rapproche, c'est un Dieu qui veut être proche de ceux qu'il adore. Il dit, ben voilà, je vais changer toutes les choses. Le passé, c'est le passé. Le nom va changer. Les dieux que vous avez connus, on les a mis de côté. Tu as accepté de me suivre. Tu as fabriqué des autels en mon nom. Maintenant, je me révèle à toi. Je fais une alliance nouvelle. Toi, tu fais une alliance avec moi. Et à partir maintenant, on est venu. C'est comme un mariage. On a scellé une union nouvelle. Sarah-I va devenir Sarah. Elle va enfin épouser sa véritable féminité. Elle va devenir vraiment la femme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire, toi, tu vas devenir le père d'une nation et Sarah va devenir ton épouse. Ça va vraiment devenir ta princesse. C'est plus l'image de la déesse lune, mais ça va devenir ton épouse, ta femme. Et c'est seulement dans ce contexte, c'est uniquement en suivant ce chemin que la porte s'ouvre pour que Sarah puisse devenir mère, pour que Sarah puisse porter un enfant et en portant cet enfant puisse porter la bénédiction, puisse porter toutes les promesses du Seigneur. C'est uniquement à cette condition-là. Abandonnez les dieux anciens, abandonnez les traditions, suivez-moi, obéissez à ma parole, faites une alliance avec moi et alors vous rentrerez dans une ère nouvelle. Et c'est uniquement à ces conditions-là que la promesse peut s'accomplir. Sarah va devenir mère parce que on entre maintenant dans la volonté du Seigneur et on suit ses paroles. Donc je vais m'arrêter là parce que je ne pensais pas que ça durerait tellement longtemps. Mais on se rend bien compte du cheminement qui a été fait et c'est pour moi extrêmement important de revenir sur l'historique pour qu'on comprenne qui étaient Abraham et Sarah. D'où il venait, quel était le contexte politique et religieux de l'époque. Et c'est que comme ça qu'on comprend mieux ses pérégrinations, ce qu'il a dû faire, les décisions qu'il a dû prendre et les choix judicieux qui furent les siens. Et on se rend compte que s'il n'avait pas fait tout ça, c'est l'histoire de l'humanité entière qui aurait été changée. Et donc, on a tourné une page, on va maintenant vers une ère nouvelle. Et là, la femme est essentielle. Seigneur aurait très bien pu dire je prends Agar, ou j'en prends une autre, ou ceci. Non, c'est Sarah et personne d'autre. C'est cette femme que je choisis et nulle autre. Et là, on se rend compte que le rôle de la femme est essentiel. La promesse de l'Éternel, l'alliance de l'Éternel, ne peut trouver sa finalité que dans un couple qui est abouti où l'homme et la femme respectent les clauses définies par le Seigneur. Je vais arrêter sur ça. Seigneur Jésus, tu vois que lorsqu'on rentre dans ton enseignement, les choses peuvent aller très loin. J'ai encore abrégé au maximum parce qu'on aura encore pu dire beaucoup de choses, mais par ton esprit, tu vas compléter tout ça. Nous rendons compte que maintenant, nous sommes rentrés dans une famille qui est une famille nouvelle, une famille qui a choisi un destin différent, qui est celui de te suivre. Abraham, Sarai, à ce stade, sont devenus Abraham et sont devenus Sarah, avec une promesse qui est celle d'avoir un fils, de fonder une famille nouvelle en toi. C'est ce que nous voulons, c'est nous unir à toi, afin qu'un fils puisse naître qui paîtra un jour les nations. Puisses-tu, Seigneur, nous accompagner dans cette espérance et que nous la conservions de toutes nos forces. En ton nom,